Il est 4 heures sur Phare FM. Si vous venez de vous réveiller, très bon réveil, excellente journée avec la radio autrement.
La Bible dit:
rejette les discussions inutiles et stupides. Tu le sais, elles provoquent des disputes.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
You and me got ourselves a problem. I can see this better than a sovereign. I believe I found a way around it. I will leave this better than I found it. There's too much smoke to see it. There's too much broke to feel this. I love you, I love you, and all of your pieces. There's too much smoke to see it. There's too much broke to feel this. I love you, I love you, and all of your pieces. History, oh, that I made a scarlet. Victories look better when you've called it. Misery is the moment when I lost you. It's pleasure in a costume. It's more than what it costs you. There's too much smoke to see it. There's too much broken to feel this. I love you, I love you. Few pieces. There's too much smoke to see it. There's too much broke to feel this. I love you, I love you, and all of your pieces, all of your pieces, all of your pieces, all of your pieces. All of your pieces, all of your pieces. There's too much smoke to see it. There's too much broke to feel this. I love you, I love you, and all of your pieces. There's too much smoke to see it. There's too much broke.
Rushed it, moving way too fast, and we crushed it, but it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel?
Miles away, miles away, miles away.
Can you feel?
Miles away, miles away, miles away.
Well, I'm just a boy with a broken toy. And so it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around. And you rush to me, and it sets us free. So I fall to my knees.
So say.
Shepard avec la chanson Geronimo sur Phare FM, la nuit autrement qui vous accompagne avec Mireille. On est encore ensemble jusqu'à 5h et j'espère que vous allez bien. On va retrouver Pain de Vie, le thème, la grâce de servir Dieu ensemble. C'est Patrice Martorano qui va nous en parler. La parole du jour, ce sera un peu plus tard, être disciple de Jésus. On retrouvera également Affaires de famille et tout de suite de la musique, Hillsong, Il n'y a que toi. Merci de vous réveiller avec Phare FM. J'espère que vous allez bien. Bon courage pour la journée.
Minuit 5h, la nuit autrement
avec Mireille.
Garder chacun de ses trésors, j'ai tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence, rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Égaré. Peu importe leur proposition, je ne laisserai plus rien nous séparer. Mon Dieu, mon roi, désormais c'est à toi que j'appartiens. Oui, j'ai déjà fait mon choix. Retourner dans le monde, y a pas moyen. Tu es présent même dans les jours de malheur. Un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs. En tout temps, dans ma vie, tu restes Seigneur. Toi seul peux t'asseoir sur le trône de mon cœur.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Patrice Martorano.
Vous savez, la Bible dit que l'un laboure, l'autre plante, etc., etc. Mais la finalité, c'est Dieu qui fait croître. Et je crois vraiment que lorsque nous travaillons, Dieu envoie également sa bénédiction. Non pas que nous méritons quelque chose, tout n'est que grâce, mais je crois vraiment que lorsqu'il y a un peuple assoiffé, Dieu aime se répandre et apporter la bénédiction. Vous le croyez, ça? Alors, nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons tous besoin de ceux et celles qui sont à nos côtés pour voir la gloire de Dieu se manifester. La semaine passée, j'ai été faire une mission, j'ai fait plusieurs églises, le Val-de-Loire, et puis en montant au Val-de-Loire, je me suis arrêté juste avant, je me suis arrêté à Poitiers, et là j'ai prêché, j'ai eu l'occasion d'apporter la parole de Dieu, et à la fin de la réunion, je me tenais avec les gens, je discutais, je partageais avec les gens qui étaient là, et là il y a une jeune femme qui est venue me voir, elle m'a dit « je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui », je dis « oui », et juste je voulais connaître le témoignage, elle me dit « en fait, il y a 6 mois de ça, je me suis converti avec vous, j'ai donné ma vie au Seigneur suite à un de vos messages. » J'ai dit « ah bon, vous êtes venu quand à l'église ?» Elle me dit « mais non, en fait, je me suis pas converti, j'ai un parcours un peu atypique, en fait. Je me suis converti toute seule dans ma chambre, je suis pas du tout chrétienne, j'ai pas d'arrière-plan chrétien, je me baladais sur YouTube, et puis il y a une vidéo de votre église qui a été proposée, puis vous prêchiez, et là, dans ma chambre, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été foudroyé, j'ai donné mon cœur à Jésus, et puis ensuite, j'ai cherché une église, et je me suis retrouvé dans cette église, et là, 3-4 mois après, vous arrivez, vous venez prêcher, je me dis, c'est juste incroyable. Vraiment, le travail de tout un corps, ensemble, et nous allons de l'avant, et c'est un bénéfice que les gens peuvent recevoir. Alors je crois vraiment que c'est important de réaliser, et ça va être un message ce matin avec la thématique sur le fait de servir Dieu et de l'importance que chacun d'entre nous puissions servir Dieu les uns à côté des autres. Alors le titre du message que je vais apporter ce matin, c'est la grâce de servir Dieu ensemble. Parce que servir Dieu est une grâce, est-ce que vous le savez ça ? Dieu aurait pu se passer de nous, mais Dieu a désiré nous utiliser. Je me souviens, un professeur nous disait ceci, on ne pourra jamais faire ce que le Saint-Esprit doit faire, mais le Saint-Esprit ne fera jamais ce que nous, on doit faire. Et il a plu à Dieu non seulement de nous sauver, mais il plaît également à Dieu de pouvoir nous utiliser pour être une source de bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. J'ai noté ceci, chaque membre de l'Église est unique. Par son âme, ses talents, les traits de son visage, sa culture, sa couleur. Aux yeux de Dieu, malgré nos différences, nous avons la même valeur. Que vous soyez responsable d'un département ou la dame servant le café le jour de goûter fraternel au café Connexion ou autre. Devant Dieu, nous sommes égaux et nous avons besoin les uns des autres. Amen. On a tous besoin les uns des autres ici. Et on va regarder ce matin à une église qui a été certainement dans l'église du Nouveau Testament, l'église qui a eu la plus forte influence. Cette église n'est pas l'église de Jérusalem, même si elle a eu une influence considérable et énorme et que tout est parti de l'église de Jérusalem. Mais la Bible nous enseigne qu'à un moment donné, l'église de Jérusalem a connu une persécution. Et alors qu'ils vivent une persécution à cause d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse, celui qui deviendra le grand apôtre Paul. Mais à ce moment-là, il est complètement démonisé, complètement fou, il est enragé. La Bible nous dit littéralement même que son haleine, je ne sais pas si vous imaginez, ça devait sentir assez fort, mais son haleine sentait la menace et le mortre. Le gars, il devait vous parler, il devait avoir des choses qui devaient se véhiculer à travers l'haleine, là, ça devait être quelque chose d'assez incroyable. Et la Bible nous dit qu'il a fait mourir un frère dans la foi qui s'appelait Étienne. Il rentrait dans les maisons, il divisait les familles, il prenait votre mari, le jetait en prison, peut-être c'était votre épouse ou un fils, une fille, et vraiment il a porté une terreur sans précédent dans la ville de Jérusalem. Et cet homme à un moment donné va donner sa vie à Jésus, mais avant de donner sa vie à Jésus, quand il respirait, il sentait l'haleine, sentait le mortre et la menace. La Bible nous dit qu'il y a plein de chrétiens qui vont fuir la persécution, et là il y a un groupe de croyants dont on ne connaît pas grand chose, vont fuir et ils vont se retrouver dans le pays de la Syrie, là aujourd'hui où il y a toutes sortes d'événements tragiques, mais ils vont se retrouver en Syrie. et dans une ville qui s'appelle Antioche. Et là, à Antioche, ils vont commencer à développer une église. Et la Bible nous dit que la grâce de Dieu était avec eux. Et l'église va commencer à se structurer. Et vraiment, ça va être une source. Cette église va être une source de bénédiction juste incroyable. Et une des particularités de cette église, c'est qu'elle a eu ensuite, elle a eu dans son équipe pastorale, je ne sais pas si vous imaginez la capacité de pardon de cette église, elle a eu dans son équipe pastorale, elle a eu celui qui autrefois les persécutait. Saul de Tarse donne sa vie à Jésus et Saul de Tarse devient un des pasteurs de l'église d'Antioche. Vous imaginez? Le gars qui vous a fait virer, qui vous a tétanisé, terrorisé, d'un seul coup, il devient votre pasteur. Ça demande pour l'église une mesure de grâce sans précédent. Et cette église est pleine d'enseignements à beaucoup d'égards. Et un de ces enseignements, c'est cette capacité de servir Dieu, malgré toutes les différences qu'elle pouvait avoir. Regardez ce qu'il est dit dans Actes, au chapitre 13, du verset 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, ou Niger, suivant la version que vous avez, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait ou qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Amen. Quelle grâce de voir une église avec autant de diversité. Premièrement, ce matin, tous pour un. Ça va être très mousquetaire ce matin. Tous pour un. Premièrement, tous pour un, cette notion où nous sommes tous unis pour une seule personne. Nous sommes tous unis avec un objectif en commun. Cette église me bénit, l'église d'Antioche me bénit par la diversité qu'elle a. C'est quand même assez incroyable, quand on lit comme ça, on peut lire sans faire trop attention. Mais vous savez, généralement, là on a lu ensemble, il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. J'ai remarqué ceci, généralement dans une église où il y a une grande sensibilité spirituelle, prophétique, etc. On regarde des églises qui sont plus dans tout ce qui est doctrinal, où c'est que c'est très enseignement, etc. On a tendance à regarder un peu ces églises comme des églises froides, des églises lourdes, des églises tellement organisées qu'elles sont lourdes, qu'elles n'arrivent pas à avancer. Et généralement, dans ce type d'église-là, où il y a vraiment les docteurs, etc., on a tendance à regarder les églises où il y a une sensibilité spirituelle, prophétique, un peu pour des gens bizarroïdes. Vous savez, les gens un peu, ouais, c'est prophétique, quoi. C'est, ils vont où le vent souffle, etc., etc. Et là, moi, ce qui me bénit dans cette église, c'est que nous voyons que les deux, et encore, il y avait Barnabas, le pasteur, il y avait Paul, l'apôtre, etc., et nous voyons qu'ils sont tous là et ils sont heureux d'être ensemble. Et il y avait également une diversité dans la culture, les gens qui composaient cette église-là. On voit qu'il y avait Lucius le Noir, c'était un Noir. Il y avait celui qui venait Simon de Cyrène. Cyrène, c'est l'Afrique du Nord. Il y avait un Noir, il y avait un Africain du Nord. Il y avait Barnabas qui était un Chypriote. Il y avait Saul de Tarse qui était un Juif, etc., etc., des Syriens. Et tout le monde était là. Et je crois que c'est une beauté lorsque une église est hétérogène. Et moi, je crois que lorsqu'il y a un réveil, l'église n'a pas d'autre choix que d'être hétérogène. Qu'on trouve dans cette église toutes sortes de sensibilités. On voit qu'il y en avait un qui avait été élevé à la cour du roi. Vous imaginez, des classes sociales différentes. Il y avait certainement des gens qui étaient dans la précarité, mais il y avait aussi des gens qui venaient de la haute, qui avaient eu des instructions, qui avaient été élevés avec le roi. Vous imaginez un petit peu tout ça. Et tout ça se retrouve dans la même église. Et moi, je trouve que c'est beau lorsqu'une église est hétérogène. Et lorsque je considère notre église, j'ai pas la prétention de dire que notre église, elle a tout, mais lorsque je vois les différentes générations, lorsque je vois des gens qui ont les cheveux blancs, il y en a plein, lorsque je vois des jeunes hommes et des jeunes filles, des ados qui sont là, c'est quand même une grâce et une diversité. Ça, c'est le miracle de Dieu. Vous savez, quand à côté de toi, t'as une dame qui a 80 ans, et à côté de toi, t'as un autre jeune qui a 16, 17 ans, et pourtant, ils sont frères et sœurs. Ça, c'est la grâce de Dieu. Logiquement, quand ton frère, ta sœur, on a 5, 10, 15, au plus 20 ans, mais encore, c'est même très loin, ça, d'écart. Mais avoir un frère et une sœur où t'as 60 ans d'écart, ça, c'est vraiment la bénédiction. D'avoir à côté de toi quelqu'un qui a une autre couleur de peau que la tienne, et c'est ton frère et ta sœur, c'est quand même une bénédiction. Vous comprenez? Lorsqu'on voit des chefs d'entreprise s'asseoir à côté de gens qui sont peut-être au chômage, ou qui ont fait des études ou pas d'études, etc., etc. Et je crois que c'est ça, la beauté de la diversité d'une église. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, toutes les personnes sont là, sont composées. Et je crois que ça, c'est la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Une église qui vit un temps de réveil, une église qui vit un temps de croissance, j'ai l'occasion de lire des livres, j'ai l'occasion de voir des églises en bonne santé qui grandissent, nous voyons toujours que le réveil, alors bien sûr il y a toutes sortes d'échelles différentes dans ce qu'on peut entendre et percevoir du réveil, mais vivent toujours cette notion-là où d'un seul coup plein de gens, de plein de milieux différents, où on ne se serait jamais retrouvés, où on n'aurait peut-être jamais été amis si Dieu ne nous avait pas réunis, d'un seul coup on se retrouve tous ensemble, on bâtit le royaume de Dieu ensemble, on se considère comme des frères ensemble, des frères et sœurs ensemble, on prie ensemble, on pleure ensemble, on rit ensemble, on est heureux d'être là pour le roi des rois. Amen. Et il y a cette notion de nous sommes un corps et chaque personne ici est différente. Chaque personne ici fait partie à une particularité, est un membre différent. Vous savez, en ce moment, il y a, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais je suis un peu l'actualité, je regarde, et il y a des gens qui disent, mais t'as pas besoin d'aller à l'église, tu es l'église. J'aimerais vous dire, c'est faux. Vous n'êtes pas l'église seule. L'église, c'est pas moi. L'église, c'est pas toi. L'église, c'est toi et moi. C'est nous, l'église. C'est lorsque les pierres vivantes se retrouvent être ensemble, c'est là que nous sommes l'église. Vous comprenez? Sinon, tu es juste une pierre vivante. Tu es le temple du Saint-Esprit, mais tu es pas l'église seule. L'église, c'est le corps de Christ lorsqu'il est réuni. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça. Ainsi, le corps n'est pas qu'un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tout, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Amen. Nous sommes tous unis et c'est tous ensemble. Un membre qui est coupé du corps ne fait plus partie du corps. Si je te coupe la main et la main est ailleurs, elle ne fait plus partie du corps. Mais le corps de Christ, c'est lorsque tous les membres nous rassemblons et c'est nous sommes ensemble, nous sommes le corps de Christ et nous avons tous besoin les uns des autres. Regarde ton voisin et dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de qui tu es. On a besoin les uns des autres. C'est pourquoi, quand on considère l'église d'Antioche et quand on considère la diversité, c'est toute une complémentarité qu'il y a. Lorsqu'on considère Saul de Tarse ou Barnabas, j'ai mis ceci, quand nous considérons Barnabas et Saul, on ne peut être qu'ébloui par une telle complémentarité. Saul, le docteur bulldozer, le défricheur, celui qui, devant tout son passage, tu peux le mettre dans un endroit, il n'y a rien, il va te faire une route le gars. Et Barnabas, le pasteur bienveillant. Je crois que c'est tellement important de réaliser la complémentarité qu'il y a. Et que c'est tellement important de réaliser, moi tout seul, ça ne suffit pas, je suis pas le corps, j'ai besoin, si je suis une main, j'ai besoin de l'œil, j'ai besoin du cou, j'ai besoin d'un pied, vous comprenez? Et tous ensemble, on a besoin, tellement besoin les uns des autres. Moi, une des choses, je le dis, puis évidemment quand je le dis, les gens pensent que j'essaie de faire le faux modeste, mais vraiment, il n'y a aucune fausse modestie, je le dis, puis je suis heureux même de le dire, j'ai pas beaucoup de dons. Mais les dons que j'ai, je les développe par la grâce de Dieu pour essayer d'être une source de bénédiction. Mais je trouve que c'est génial de pas avoir beaucoup de dons. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'oblige à dépendre des autres. Moi, je suis le style de gars, et certainement qu'il y en a d'autres qui sont que moi, quand moi je sais faire quelque chose, j'ai pas envie de le déléguer aux autres. J'ai vraiment du mal de le déléguer aux autres. Donc le top du top, c'est quand je sais pas faire du tout. J'ai besoin des autres. Pour moi, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Je suis obligé de me retrouver dans une église où il y a plein et on va développer ça. Et finalement, toutes les faiblesses que tu as, plutôt que de le vivre comme une faiblesse, plutôt que de le vivre comme oh, j'ai pas de chance, ceci, cela, en fait, c'est une force. Ça nous amène à réaliser la complémentarité au milieu du peuple de Dieu. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tous ceux qui chantent juste, et j'ai besoin de chacun d'entre nous. Et on a tous besoin les uns des autres. Et c'est une grâce et une bénédiction. Et je crois que c'est tellement important quand on le réalise. C'est ça l'église. C'est ça le corps de Christ. L'œil ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi. Mais on comprend qu'on a des fonctions différentes et que les fonctions d'un œil sont différentes des fonctions d'un pied. Mais on a tous besoin, tout le monde est important et nous avons tous besoin les uns des autres. Est-ce que vous le croyez ça? Et lorsque l'on comprend ça, lorsque l'on comprend qu'on a besoin les uns des autres, l'autre, écoutez bien, l'autre n'est plus un problème qui risquerait de me piquer ma place. L'autre n'est pas un problème que je vais jalouser, une personne que je vais jalouser, mais je comprends que Dieu me fait la grâce, finalement, c'est un cadeau pour moi. Et non un problème, c'est quelqu'un qui va ensemble, on va s'aider et on va aller de l'avant. Une personne remplie de grâce bannit définitivement de sa vie la jalousie et la quête de position personnelle. En fait, nous ne servons pas nos dons pour nous faire un nom. En fait, les dons que nous avons sont des dons pour être une source de bénédiction les uns pour les autres. Le don que j'ai n'est pas pour me faire un nom. Le don que Dieu m'a donné est pour vous bénir et vous encourager. Le don que tu as n'est pas là pour fatiguer l'Église. Le don que Dieu t'a donné est là pour bénir le peuple de Dieu. Vous comprenez? Et des moments quand on est en recherche de quête personnelle ou quoi que ce soit, d'un seul coup, on fatigue tout le monde avec son don. J'aimerais te dire, ton don n'a pas été donné pour que tu fatigues les gens autour de toi. Ton don t'a été donné pour être une source de bénédiction. Et je prends ce que j'ai. Je prends les qualités que Dieu m'a données, qui sont propres, et je vais pas m'en excuser, mais c'est les dons et les qualités que j'ai, mais je réalise que je vais prendre ça, et je vais être une source de bénédiction. Ton don est là pour bénir celui qui est à côté de toi. Barnabas, quand on lit ce passage, c'est incroyable. Barnabas, quand il y a eu le don spirituel, la Bible dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Faut comprendre ceci, c'est que l'ordre est important. Lorsque le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul », il fait de Barnabas le responsable de l'équipe. Il est cité en premier. Dans le contexte biblique, t'es cité en premier, c'est toi le chef, c'est toi le leader. Et Barnabas est cité en leader. Moi, j'imagine un instant, Saul de Tars, celui qui va devenir l'apôtre Paul, lorsqu'il entend ça. Peut-être au fond de lui, il a dit, hop, deux minutes, là, celui qui donne le don, la Bible dit qu'il faut juger de tout, alors je vais juger ce que tu viens de dire. T'es sûr qu'il t'a dit de dire Barnabas en premier? Parce que comprenez ceci, ça fait 14 ans quand même que le monsieur il attend. 14 ans qu'il attend et il se retrouve à ce moment-là et il a eu un don dans sa vie, Barnabas, le Saul de Tarse. Le don qu'il a eu au moment où il donne sa vie au Seigneur, c'est qu'il va être un instrument de choix pour toucher les nations. Alors moi j'imagine quand Saul de Tarse entend le don spirituel, attends, deux secondes, c'est pas toi, ça va être moi parce que autrefois il y a eu un don spirituel quand même, tu as pas parlé de ça, c'est le Saint-Esprit qui l'avait dit et etc., etc. Non, vous savez ce que Saul de Tarse fait? Il laisse et il va travailler de tout son corps, de toute son âme, et il va attendre que Dieu le mette en place. Et à un moment donné, la Bible nous dit que Saul de Tarse va devenir l'apôtre Paul. Et à partir du moment où il devient l'apôtre Paul, c'est lui qui va devenir le responsable, qui va devenir le chef quelque part de l'équipe missionnaire. Il n'y a pas juste Barnabas et Saul, ils étaient plusieurs, et ils vont avancer ensemble. Et j'aime cette notion de cet homme tellement spirituel, de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse, qui va être capable de réaliser, j'ai reçu un don, il y a des prophéties qui sont sur ma vie, mais je continue, je suis soumis à l'Esprit de Dieu, et je continue et j'avance, et je crois que quand j'ai cette attitude-là, le Seigneur finit toujours par m'amener là où je dois aller, et je finis par être une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. C'est tellement important de comprendre ça, vous savez pourquoi? Quand nous servons tous, les uns à côté des autres, vous savez, une église qui vit une croissance est une église hétérogène. Est une église avec plein de dons, plein de qualités, plein de choses différentes. Mais ça veut dire aussi quelque chose. Ça, c'est la force, c'est la beauté. Mais il y a quelque chose également, il y a le pendant de tout ça, c'est que l'équilibre dans la diversité est très fragile. C'est un peu comme un mariage mixte. Deux personnes de même culture qui se marient, c'est assez facile. Ils ont les mêmes valeurs, ils ont eu la même éducation, ils aiment manger les mêmes choses, ils parlent la même langue, ils voient les choses pareilles. Deux personnes de culture complètement différentes qui se marient, ça peut faire des mariages magnifiques, hein, mais ça demande beaucoup plus de travail. Ça demande de mettre de l'eau dans son vin, d'arrondir les angles, etc., etc. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la diversité amène une fragilité au niveau de l'équilibre. Et c'est tellement important de le comprendre afin que je réalise que on est une église hétérogène, on a des dons, des talents, des sensibilités différentes et je suis appelé à respecter celui qui est à côté de moi, à respecter qui il est et sa génération et ma génération et sa couleur et ma couleur et qui on est, etc. Et que tous ensemble, on puisse le réaliser, s'aimer, s'apprécier et prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est tellement important de pouvoir comprendre qu'il y a tout un équilibre à avoir dans la diversité. Alors vous connaissez l'expression « tous pour un et un pour tous ». Deuxièmement, lorsqu'on est tous pour un, pour que quelqu'un dans le corps de Christ, un œil, un pied, je ne sais pas, puisse se développer et avoir un impact pour le royaume de Dieu, on doit comprendre que tous pour un et un moi pour vous tous. Et toi pour tout le monde. Comprenez-vous? C'est un peu comme les mousquetaires. Et on va le voir, c'est tiré de la Bible tout ça. Hein. Mais il y a cette notion de je suis là pour toi, mais tu es là aussi pour tout le monde. Et c'est ensemble, on comprend et on avance avec cette notion-là. Dans les différentes épreuves, on voit que Barnabas et Saul de Tarse, l'apôtre Paul, vont faire bloc. Durant tout le voyage missionnaire, on sait que par la suite, lorsque le voyage missionnaire va se terminer, à cause d'une autre tierce personne, c'est pas mon message de ce matin, mais il va y avoir un malentendu, puis ils vont être obligés de faire deux équipes différentes. Mais durant tout le voyage missionnaire et les épreuves qu'ils ont connues, quelqu'un qui abandonne, des complications, des gens possédés, des gens qui les fatiguent, les coups, la prison, etc., ils ont toujours fait bloc. Ils ont marché ensemble, un pour tous et tous pour un. Je suis là pour toi, tu es là pour moi et on avance. Et lorsqu'une église le comprend, elle va de plus en plus loin. Bud Wilkinson a dit, pour qu'une église atteigne son objectif, ça peut être vrai pour votre travail dans le séculier, chaque membre doit être prêt à subordonner ses ambitions personnelles au bien de la communauté. Également, dans la même perspective, Ray Kroc déclara « Aucun d'entre nous n'est plus important que l'ensemble de l'Église. » Et on doit comprendre ceci, c'est que chacun ici, on est appelé à servir Dieu, mais chacun ici, on a des sensibilités différentes et on doit avoir une vue d'ensemble. C'est-à-dire voir l'Église de manière générale. Parce que sinon, on va toujours vouloir tirer les choses par rapport à son propre ministère. Sauf que la réalité, moi en tant que pasteur, je regarde ça et la réalité est la suivante, c'est qu'il y a une vue d'ensemble. Il n'y a pas une chose qui est plus importante que l'autre, c'est tous ensemble, le corps bien huilé, bien fonctionné, avec les différentes sensibilités. On doit comprendre que Dieu peut utiliser des gens qui ont une autre sensibilité que la mienne et c'est bien. C'est bien qu'il y en a qui aiment s'occuper des enfants, d'autres faire la louange, d'autres la prière, d'autres l'évangélisation, d'autres s'occuper des pauvres et c'est comme ça que le royaume de Dieu avance. Je dois comprendre qu'au-delà de mon appel, il y a l'appel de l'Église. Et personne n'est plus important. Et moi-même qui vous parle, moi-même le premier qui vous parle, il n'y a rien de plus important que l'épouse de Jésus. Il n'y a rien de plus important que l'Église. Et on est là ensemble et Dieu nous donne la grâce de pouvoir nous côtoyer avec des dons qu'il donne à chacun comme il le désire. Et ensemble, nous servons le roi des rois pour voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. À Antioche, ils étaient unis pour servir Dieu. Regardez ce que Paul dit. Nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Okay? On veut plus rester des enfants, on veut devenir des adultes. Écoutez bien, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ, c'est de lui que le corps, écoutez bien, tout entier, tire sa croissance, une église qui grandit, la croissance de l'église, pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité qui venant de toutes les articulations. Pas juste d'un département, pas juste d'un service, pas juste ta sensibilité, mais de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ces parties. Amen. Comprenez-vous? Et c'est comme ça que je réalise que l'Église est là et je sers l'Église et je sers le Dieu et en servant Dieu, je sers également son épouse. Vous savez, la chose qui m'interpelle, on l'a lu ensemble. La Bible dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et juste avant, la Bible nous dit, pendant qu'ils servaient Dieu, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, enfin Barnabas et Saul de Tarse pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Moi, la question qui m'arrive de suite quand je lis ça, c'est, alors qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils étaient en train de servir Dieu, mais ils ne faisaient pas l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. Eh oui, ils étaient en train de servir Dieu, et d'un seul coup, Dieu dit, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire qu'ils étaient en train de faire un job qui n'était pas leur appel. Mais comprenez ceci, ils le faisaient quand même. Et des moments, il y a cette notion dans la pensée des gens, j'ai reçu un don, un jour quelqu'un est venu, il a prié pour moi, il m'a prophétisé, je vais être le futur évangéliste international, etc., etc. Et là, tu passes tes journées à vacher sur ton canapé, à manger des chips et à boire du coca. J'aimerais te dire, dans 10 ans, tu seras toujours sur ton canapé. Vous comprenez? C'est pas comme ça. Dieu utilise toujours des gens qui se mettent en mouvement. Alors que je suis en mouvement, alors que je suis en train de servir Dieu, à un moment donné, le Saint-Esprit va parler et il va m'amener à une prochaine étape. C'est un peu comme le bateau, un bateau. Il y a des bateaux qui sont amarrés, ils sont au port, la voile est rangée, il y a l'ancre de posée, ils sont amarrés complètement au port et ils sont là. Et j'aimerais un jour voyager, J'aimerais dire, si t'es comme ce bateau, t'es au port et puis de temps en temps il y a une petite secousse, puis ouh, il y a des émotions ce matin, ouh, ça m'a fait du bien. J'aimerais te dire, dans 10 ans tu seras toujours au port. La réalité, pour avancer, il faut que le bateau déplie la grand voile, il faut qu'il lève l'ancre, il se met en mouvement, et alors qu'il se met en mouvement, quand le vent de l'esprit va souffler, il va aller dans sa direction. Mais le vent a beau souffler, s'il n'a pas sorti les voiles, s'il n'a pas levé l'ancre, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Et je crois vraiment que c'est tellement important. Souvent, il y a cette pensée en France, écoutez bien, où les gens pensent qu'ils vont rentrer dans le ministère. C'est une pensée. Oh, je suis rentré dans le ministère, tel moment, telle date. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que nous rentrons dans le ministère. Je crois que nous grandissons dans le ministère. Moi, je crois que le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu es dans le ministère. Et ensuite, tu grandis dans le ministère. Je comprends la notion de rentrer, peut-être rentrer dans un appel particulier. Mais la notion, c'est on grandit et on évolue dans le ministère. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vous aurais fait rire, hein, moi, je faisais tout ce que je pouvais faire. Je distribuais des tracts. J'ai même chanté dans la rue, vous le direz pas. J'ai tout fait. J'ai tout fait, j'étais moniteur, j'étais le ménage, tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Même une des choses que vraiment qui me tenait à cœur, c'est lorsque la réunion était terminée, je remettais toujours l'église nickel. C'est-à-dire je rangeais, je prenais tous les papiers, je faisais le tour des rangs, j'enlevais tous les papiers et je rangeais. Vous savez, quand on finissait, la réunion se termine et puis les chaises, elles bougent. Et moi, je rangeais toutes les chaises, fallait que toutes les chaises, elles soient nickel. En plus, j'avais un pasteur, c'était un ancien militaire. Et lui, son kiff, c'était de se mettre comme ça et quand il voyait une chaise, il voulait en voir qu'une. Il voulait que toutes les autres chaises soient cachées derrière tellement que c'était bien aligné. Et là, je passais 20-25 minutes, je rangeais toutes les chaises comme ça. Et je me souviens, il y avait un gars à l'église, à chaque fois qu'il me voyait, il riait de moi. Il me disait, ah, toi, t'as le ministère de la chaise, ha, ha. Et il riait de ça. Tout le temps, il m'appelait le gars qui a le ministère de la chaise. Sauf que le ministère de la chaise en ministère de la chaise, aujourd'hui, j'ai pu évoluer par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Alors que j'aurais pu rester sur mon canapé avaché en me disant, il est hors de question que moi je range des chaises parce que tu comprends, mon appel un jour sera d'écrire et de prêcher, etc., etc. Je crois que si j'avais eu cette pensée, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. La pensée c'est, mets-toi en mouvement, sers le Seigneur, sois celui qui va servir et Dieu va t'amener d'étape en étape. Le Saint-Esprit va parler parce que je crois que Dieu parle encore et le Saint-Esprit va te diriger et te conduire là où il désire que tu puisses avoir un impact pour le royaume de Dieu. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Littéralement en grec, c'est son poéma, son poème. Et là, toutes les femmes font ouh. Et non. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés pour pratiquer les œuvres que Dieu a désirées pour nous. On doit comprendre que c'est tous ensemble où nous pouvons avoir de l'impact. Et c'est tous ensemble où nous voyons la grâce et la gloire. C'est pas un gars qui gesticule. Tout à l'heure, je vous parlais de cette jeune fille qui a donné sa vie, cette jeune femme qui a donné sa vie au Seigneur. Mais j'aimerais vous dire, si c'était juste moi, elle l'aurait jamais eu. Ça demandait une équipe qui prenne le son à la sono. Ça prend des gars qui font, ou des filles qui prennent la captation vidéo. Ça prend quelqu'un qui fait le montage. Vous comprenez? C'est pas l'histoire d'un gars qui est sur le devant, là, puis gesticule dans tous les sens. Ça fait rien, ça. La réalité, c'est lorsque nous sommes tous ensemble, que nous servons, que nous voyons la gloire de Dieu se manifester.
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur églisemomentum.com.
Pain de vie, c'est toutes les nuits, du lundi au vendredi, c'est à 1h15 et 4h15 sur Phare FM dans la nuit autrement. La parole du jour, ce sera tout à l'heure, être disciple de Jésus. Et tout de suite, Who I Am avec Need to Breathe. Vous écoutez Phare FM dans la nuit autrement. Je suis ravie de vous accompagner encore jusqu'à 5h. Bon réveil et bon courage pour la journée.
White lies and desperation, hard times and conversations, no one should ever love me like you do. Sometimes my bad decisions define my false suspicions. No one should ever love me like you do. While I'm on
control. You'd save my hand somehow. You really love who I really am. I push you away, still you won't let go. You grow your roses on my barren soul.
Who am I?
To be loved by you.
Who am I?
To be loved by you.
Who am I?
To be loved by you.
Who am I?
Last night, confidence was shaking my old, and my past was saying no one should ever love me like you do. While I'm on this road, you take my hand somehow. You really love who I really am. I push you away till you want.
Chaque jour, un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Acte 11, verset 26. Être disciple de Jésus. Bonjour à tous. On constate que le mot « disciple » apparaît 269 fois dans le Nouveau Testament, alors que le mot « chrétien » n'y est cité que 3 fois. Ce terme est à l'origine utilisé pour décrire ce qu'ils sont, des disciples de Jésus-Christ. Le philosophe Dallas Willard utilise l'image de l'automobile. Le disciple n'est pas le modèle de luxe ou la grosse cylindrée du monde chrétien. Il n'a pas été spécialement étudié pour pouvoir foncer sur toutes les routes. Il est décrit dans les pages du Nouveau Testament comme un modèle de base dans le royaume de Dieu. Devenir chrétien est l'œuvre d'un instant, celui où l'on place sa confiance en Christ. Mais devenir disciple est l'œuvre de toute une vie. Il faut renoncer à soi-même et obéir à la volonté de Dieu au quotidien. Mais qu'est-ce qu'être disciple de Jésus? 3 choses. Premièrement, l'écouter et apprendre. Il me faut donc lire, étudier, mémoriser, verbaliser et appliquer chaque jour de ma vie les vérités enseignées dans la parole. Deuxièmement, le suivre partout où il me conduit. Je devrais sans doute modifier mes projets, renoncer à certaines de mes relations, ainsi qu'à toutes ces choses auxquelles je m'accroche tant. Troisièmement, lui être dévoué. Un jour, Jésus dit à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Jean 21, verset 15. Notez bien le « plus ». Être un disciple, c'est donc aimer Jésus plus que tout être ou toute chose. Et c'est la vie la plus satisfaisante et la plus gratifiante que l'on puisse mener.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Phare FM, une autre musique.
Il y a
la vie défile, mais qu'est-ce que je fous là? Risque tactile et dans mes doigts. La peur se glisse volant au bout des bras, toujours en lice, du moins je crois. Oui, je te jure, j'ai vécu comme j'ai aimé à toute allure, sans compter. Oui, je t'assure, j'ai vécu comme je roule, droit vers l'amour et vers la foule. Ia, ia, ce moteur au fond de moi ne m'en veut pas. Ia, ia, déjà le ciel dans les ailes qu'on déploie. Falling out of love, falling right back in it on the nights I had too much. Yeah, tryna break these codes. Then I text you 3 a.m. on psycho, lock me up. Yeah, didn't think about you at all tonight. Till they play that French song you like. Ilia, Ilia, sur mon terre, un fond de moi, des mauvais pas. Jaloux, c'est dans les ailes qu'on déploie. Ia, ia, cette force qui me dit va vite, viens, comme un refrain. Ia, ia, cette voix qui me dit la prochaine fois ne freine pas. Et mon cœur se serre. Coule ta sueur, excuse-moi mais j'accélère. You say you don't love me baby, you say you don't care. But every time that we together we end up in underwear. Il y a ce moteur au fond de moi ne m'en veut pas. Il y a déjà le ciel dans les ailes qu'on déploie.
Amir sur Phare FM, il est 5h10 passé et on va poursuivre en musique. Josh Wilson, c'est maintenant It Gets Better, votre séquence Affaires de famille, c'est ensuite. Ne manquez pas ce prochain rendez-vous, c'est Phare FM qui vous accompagne dans la nuit autrement.
For a reason, that's what they say, but is it true? They tell me it's a season, but they don't know what I've been through until I stop the bleeding. The words are salt inside my wound. I haven't stopped believing, so it's really hard to see it. Wish I could talk to my future self. What would I say? 'Cause I need some help. Don't be afraid, just get through today. The maker of heaven and earth is making a way. Take a deep breath and take the next step. Oh, this is not how it is, this isn't forever. Hold on, it gets better, better. It's hard to see the sunrise in the middle of the midnight hour. You gotta wait sometimes till the world spins back around. I promise you it's shining, oh, you just can't see it now. Keep watching the horizon, just open up your eyes and don't be afraid. Just get through.
God's not afraid. The maker of heaven and earth is making a way. Take a deep breath.
Affaires de famille.
Jésus s'appelle lui-même le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Un bon berger s'occupera du plus faible de son troupeau, il guérira ses blessures et le protégera de toute attaque. En fait, il fera tout ce qu'il faut pour sauver la vie même d'une seule brebis. Jésus a révélé la bonté de Dieu en ouvrant les yeux des aveugles, en guérissant les lépreux et en ressuscitant un enfant mort. Il s'est occupé de sa brebis quand il a guéri le cœur brisé de Marie-Madeleine, quand il a ressuscité le fils unique de la veuve. Quand il a touché le cœur entêté de Paul et le cœur repenti de Pierre, c'était pour les conduire à sa suite. Que faut-il faire pour attirer son attention? Allez simplement à lui, car il guérit toujours les cœurs brisés, ouvre les murs des prisons et libère les captifs. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas?
Retrouvez Affaires de famille en podcast sur farfm.com.
Side against the sheen of a
Love at the End, John Mark Macmillan. C'est la fin aussi, la fin de la nuit autrement, puisque Bonjour chez vous va vous rejoindre dans quelques minutes. C'est aussi Innocent qui va vous retrouver, c'est à partir de 5h30 dans Cocorico et à 6h30, c'est le Positive Morning qui va vous rejoindre. J'ai été ravie d'être avec vous et je vous retrouve à minuit cette nuit. Et je vous laisse avec notre dernier titre, Vianney, Je suis fou. Allez, soyons fous. Merci de rester avec Phare FM et très bonne écoute et bonne journée aussi.
Certains pensaient qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Certains voudraient qu'on se déchire pour des billets, pour un empire. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Et toi, qui a troqué le jeu contre le nous, qui donnerait le monde au sans le sou. Ici-bas, tu es fou. Et toi, qui tend la main vers celui qui n'a rien, sans en vouloir à celui qui a tout. Si pour ça, tu es fou. Je suis fou.
Certains pensaient qu'ils dérangeaient, trop différents, trop à côté. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là.
Et oublie les gens qui nous séparent, il est temps qu'on se répare. Que tous les fous se préparent sur la ligne de départ. Parlez pas de complot, et l'autre il abandonne. On va déjà se changer soi, oh là là.
Et toi,
le jeu contre le nous,
qui donnerait le monde au sans le sou.
Ici-bas, tu es fou. Et toi, tu tends la main vers celui qui n'a rien,
sans en vouloir à celui qui